27 right, wind 250 degrees, 1
clear.
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 Clear. Green. Descend.
Hey, salut à toi et bienvenue. Ça me fait très plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode du podcast de l'expérience Shiban. L'expérience Shiban, si tu nous découvres, c'est un podcast aéro où nos invités te partagent leur parcours et leurs anecdotes dans une discussion technique et humaine entre passionnés de machines volantes. Je m'appelle Sébastien et avec mon équipe, on espère tous que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Eh bien, ça y est, l'heure du vol retour avec André est enfin arrivée. Bonjour André.
Bonjour Sébastien.
Et merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation sur le podcast. Je te présente à nouveau très rapidement pour nos auditeurs qui n'auraient pas écouté le premier épisode avec toi ou alors qui auraient un petit peu oublié. Tu es pilote de ligne retraité, tu as un parcours extrêmement riche. Je reprends quelques chiffres et exemples. 23 employeurs, plus de 20 000 heures de vol. Tu as fait toutes sortes de jobs de pilote dans le civil, en fait, de la pluie artificielle en Afrique. Tu as contribué à la création d'une compagnie aérienne, d'école de pilotage, volé avec Bernard Tapie, fini commandant de bord chez Air France, etc. Et dans le dernier épisode, tu nous avais fait voyager en nous décrivant ton parcours, en restant un peu en surface, même si ça avait duré une heure et demie à peu près. Je n'ai pas compté le nombre de fois où tu as dit « Ah, ça, on reviendra dessus plus tard » ou « Ah, mais là, encore plein de choses à dire ». Alors voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Tu acceptes généreusement de revenir avec nous sur certains événements marquants dans cet épisode. Merci. Et c'est donc parti pour cet épisode 34 de l'expérience Shiban. Alors, bien. Je te propose pour commencer donc qu'on revienne sur certaines anecdotes. Tu voulais potentiellement reparler de ton aventure en Guinée équatoriale ou alors oui. Du vol avec Bernard Tapie.
Oui, l'aventure en Guinée équatoriale, bon, j'y tiens un peu parce qu'il y a eu pas mal d'événements assez intéressants à raconter à des jeunes pilotes. Donc, en 86, Bernard Tapie décide de changer d'avion. Il voulait prendre un Mystère 20. J'étais sur une Corvette auparavant. Et surtout, il allait rentrer dans le monde du foot. Alors ça, bon, le foot, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne me voyais pas dans les stades deux fois par semaine. Et en plus, donc, le Mystère 20... autant je possédais parfaitement bien la Corvette pour attraper quelques petites erreurs de Bernard, autant avec un Mystère 20, je ne me sentais pas du tout de taille à récupérer l'avion en cas de problème.
Parce qu'il pilotait lui-même, c'est
oui,
ça
parce que j'ai fait 600 heures de double à Bernard.
Okay.
Il se débrouillait pas mal, enfin, il n'y avait pas trop le temps d'assimiler la théorie, ce qui posait des fois des problèmes, par exemple sur le domaine de vol ou des choses comme ça. Donc, je quitte Bernard en septembre, et il a continué à me... payé jusqu'en février, date à laquelle j'ai été embauché par la coopération française pour différents projets. Donc c'est quand même vachement sympa de sa part, quoi. Et donc je vais à la coopération, je rencontre un jeune polytechnicien qui s'occupait des compagnies aériennes attaché à la coopération. Et moi, je visais d'aller en République centrafricaine sur la Caravelle de la République centrafricaine. Mais il m'a proposé un poste aux Comores pour remonter un petit peu la boîte des Comores qui battait de l'aile un petit peu. Donc, un poste de chef pilote directeur d'exploitation. Donc, on a commencé à regarder ça un petit peu. Et puis, au cours d'une xème entrevue, à Paris, j'habitais la région parisienne, il me dit « Bon, ben, changement de programme pour toi, je t'envoie plus aux Comores, je t'envoie en Guinée équatoriale, si t'es d'accord, pour créer une compagnie nationale, remplacer les soviétiques qui sont là-bas. » Alors je dis « Bon, ok. » Et puis à ce moment-là, vient un pilote que je connaissais un peu de réputation, un gars assez folklorique, qui s'appelait Astro, qui s'est tué par la suite en hélicoptère. Il arrive dans le bureau avec une grande cape bleu foncé. Je m'imagine même qu'il avait des babouches, mais j'en suis pas sûr. Enfin, un type assez compétent, mais un peu folklorique, comme il y avait encore à l'époque dans le monde de l'aviation, quoi. Et donc, on me confie un petit peu le projet que je devais créer de A à Z. Et je travaille avec Lionel, au choix de l'avion, l'organigramme. Et en attendant que tout se fasse, que les autorisations, que le financement, tout ça se passe, donc j'ai révisé l'espagnol que j'avais en deuxième langue au collège, parce que c'est des pays qui sont hispanophones. Et donc le projet se met en route en juillet 87, non 86, juillet 86. Il se met en route en juillet 86 et je pars en Guinée équatoriale qui était un pays mais alors vraiment, vraiment en développement. Hein. Le président de la République était le neveu de l'ancien président dictateur Macias qui avait tué quand même presque le tiers de la population dans les années 70. Et donc il s'agissait du président Obiang, et il avait le désir que les Français viennent. Et à l'époque, on ne savait pas exactement pourquoi les Européens, d'une façon générale, étaient très attachés à des projets dans ce coin-là. Et en fait, tous ces pays-là, le Nigeria, la Guinée équatoriale, le Gabon, sont sur une immense nappe de pétrole. Mmh. Donc les Russes occupaient cet endroit-là, et a fallu déloger les Russes. Donc j'ai commencé à embaucher des gens, on a vidé les avions des hangars, c'était des Yak-40, des Antonov et autres. Ça n'a pas beaucoup plu aux Soviétiques, enfin je dis les Russes et les Soviétiques en fait. Et puis je suis parti passer une qualif Fokker Sidley 748 à Manchester avec des Indiens en co-stagiaire.
À quoi ça ressemble comme avion à peu près?
C'est un biturbopropulseur de 50 places, de la classe du Fokker 27, un peu plus moderne que le Fokker 27.
Okay.
Surtout que c'était un 2B, donc avec un tableau de port assez moderne. Hein. C'est un avion donc fabriqué par les Anglais, quelques qualités, un avion assez intéressant. Et puis, donc, je passais de calife, et ensuite, je pars à Madagascar, puisqu'on avait loué l'avion à Madagascar, faire la partie pratique et ramener l'avion en Guinée équatoriale. Donc, il fallait traverser tout le continent africain. Et je vole à Air Madagascar, je fais quelques heures pour me familiariser avec l'avion, et on entame le convoyage. La directrice des opérations, qui s'appelait Andrea Mbouloulun, de mémoire, me charge l'avion, mais vraiment au maximum. Elle limite le plein de carburant du fait de la charge. Je lui dis, mais non, c'est l'inverse. Moi, je veux plein de carburant, c'est un convoyage, mais il y a des choses qu'il faut virer. Alors, on avait viré les escaliers en bois qui permettaient d'être autour. Je dis, ça, on peut les fabriquer en Guinée. Ça pesait quand même quelques centaines de kilos. Bref, on part en légère surcharge. Et elle avait prévu un vol en trois étapes. Et moi, je dis non, je veux juste m'arrêter en République centrafricaine, c'est Bujumbura, je crois.
Bangui, peut-être.
Bangui, c'est ouais. Ça, oui. C'est Bangui. Et repartir ensuite sur la Guinée. Alors, d'après ses calculs, ça passait pas, mais elle avait fait des calculs pour du transport aérien. En convoyage, on optimise un petit peu, on va chercher des niveaux vachement élevés, quitte à mettre le masque à oxygène si la pressurisation ne fonctionne plus très bien. J'avais fait beaucoup de convoyages en passé, je dis ça passe à l'aise. Et on n'a pas, à l'époque, on n'avait pas les mêmes façons de faire. C'est-à-dire que quand on parlait de déroutement, on prenait des décisions en altitude, de façon à vraiment avoir les pattes très longues. Quoi. Et donc, je pars avec le chef pilote d'Air Madagascar en copilote, Dieudonné Solufson, qui a bossé ensuite, je crois, à OM, qui était un gars très bien, très compétent et tout. Et on décolle. Vraiment très chargé, et boum, juste à la rentrée du train, boum, il y a une gênée qui saute.
Ah oui.
Alors,
ça commence mal.
Alors, il voulait se reposer, je dis, attends, ça a sauté parce qu'il faisait peut-être chaud, on va voir, de toute façon, on ne va pas se reposer, on est au-dessus de la masse d'atterrissage. Bon, il commençait à être pas très rassuré déjà. Et puis, on quitte Madagascar, pas de balise radio avant, je ne sais plus quelle balise au Mozambique, oui, c'est ça, au Mozambique. Et il était drôlement inquiet, quoi. Il était là, il se dit, mais un cap est à la monte, hein, c'est du basique. Et puis effectivement, on finit par choper un vor, et on était bien alignés suite à ce bout de navigation. Donc ça le rassure un petit peu. Puis on était à haute altitude, et à un moment donné, quand on a une heure et demie, deux heures même de Bangui, plus de moyens radio. Et là, les réservoirs commençaient déjà à indiquer des tendances vers le zéro. Enfin, il y avait quand même de la marge. Il me dit, mais il faut qu'on se pose, on ne sait pas où on est. Je dis, non, attends, t'affole pas. Cap et à la montre. Et on a de quoi faire, sans problème. Et effectivement, au bout de 50 minutes de Bangui, boum, le VOR arrive et s'aligne, de nouveau rassuré. Et on se pose à Bangui. Et on est reçu par l'ambassadeur de France, qui avait été prévenu par la coopération. Je suppose, j'ai dit, écoutez, excellent, j'ai pas vraiment le temps. On repart aussi sec, parce que aussi j'avais des mécanos malgaches derrière, qui devaient entretenir l'avion. Il y avait 4 mécanos. Et eux étaient chargés d'aller chercher à manger. Le Dieudonné Solution, qui faisait fonction de copie, s'occupait de faire le plein. Moi, je vais à la météo. Alors, je ne m'attendais pas du tout, j'y allais comme ça, faire un plan de vol et puis prendre une météo à laquelle j'y prêtais pas trop d'attention. J'arrive à l'avion, je vois Solution, je lui fais bon, bah, t'as vu le dossier météo ? Je suis étonné, il est vachement épais. Alors, j'ouvre le dossier météo, on regarde, il y avait même des photos satellites. Je dis, ah, bah, dis donc, puis d'un seul coup. Bon, j'avais fait de la pluie artificielle quelques années auparavant. J'y mets le fond intertropical. Il n'est pas à cet endroit-là. Il est sur l'équateur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'était une météo qui datait d'il y a 2 ans. on était au mois de février, ou un truc comme ça. Et, et la météo, c'était une météo de juillet, quoi, ou l'inverse, enfin, peu importe. Et c'était complètement décalé. Donc, on a foutu le dossier météo dans un coin. Ouais. On est reparti.
Et vous êtes allé voir vous-même c'était quoi la météo, quoi ?
Oh ben, non, mais c'était n'importe quoi. Ouais. Mais quand on arrivait sur le Zaïre, on est tombé sur un front de cunam, mais énorme. On s'est tabassé des feux de Saint-Elme partout, des hectares. Mmh. Les Africains derrière étaient morts de trouille, quoi. Et plus de communication radio, tout ça. Et bon, on finit par arriver. Oui, parce qu'il y avait un impératif. Il y avait la fête nationale. De la Guinée équatoriale, et le président tenait absolument à ce que l'avion avec les nouvelles couleurs du pays arrive au moins 2 jours avant la fête nationale pour préparer le film sur l'avion, le passage, la visite de l'avion et tout. Enfin, ils en avaient fait un événement, puisque la compagnie s'appelait Equato Guineana de Aviación. Et comment te dire, là. On arrive donc à Douala, à la grande satisfaction de tout le monde. On débarque tout ça et le président vient voir l'avion et puis me dit « Commandant, ça va pas ?» Je dis « Qu'est-ce qui va pas ?» Eh bien, les couleurs, elles sont à l'envers. Alors moi qui pensais que c'était une blague, je lui dis bah, « C'est pas grave, on va faire une présentation en vol d'eau.
Ouais. »
Il l'a assez mal pris. Ouais. Il m'a dit « Non, j'ai écouté, Excellence, là, franchement, on ne peut pas repeindre l'avion ici à Malabo. Même à Douala, ce ne sera pas sec et tout. Personne ne remarquera que les couleurs, c'était rouge et vert de mémoire, des bandes. Et personne ne remarquera ça, quoi. Et effectivement, ça s'est très bien passé. Et donc, l'avion, on l'a mis en exploitation. Assez vite, on s'est retrouvé avec des bonnes statistiques de régularité, de remplissage et tout ça. J'étais vraiment content. Le maître d'œuvre, c'était UTA. Mmh. Enfin, à travers les compagnies associées. Et j'étais un des premiers salariés, parce que UTA réactivait pour ça Aéromaritime. Et j'étais un des premiers salariés d'Aéromaritime.
Okay.
Mais qui n'existait qu'à travers ça. Mmh. Par la suite, ils ont complètement réactivé avec des Boeing et tout, et c'était intégré dans Air France. Et là, pas mal, les histoires ont commencé, des choses invraisemblables. Première histoire, il était 11h du soir, j'habitais dans les immeubles de la coopération au milieu des Africains. On entend frapper à la porte, je ne voulais pas me déplacer. Ma femme dit, écoute, si tu ne vas pas, j'y vais. Bon, alors, ok, j'y vais. Puis il y a un type qui était le chauffeur du ministre des Transports, non, du Premier ministre, Dimitri, je ne sais plus comment, qui me dit, le ministre veut vous voir. J'étais étonné, j'ai dit bon.
Là maintenant
Ah, mais c'est urgent et tout. Donc je m'habille, je vais avec le chauffeur voir le ministre. J'arrive dans l'appartement du ministre, qui était assez luxueux. Il était de dos assis dans un canapé en train de regarder une télé camerounaise, mais c'était presque plus de la neige que des images, quoi. Okay. Il avait déjà un petit peu bu du whisky et il me dit d'un ton très sec. Je veux que vous rameniez une 20aine de moutons de Douala pour l'anniversaire de l'enfant de la numéro 1. Il y avait deux femmes.
Okay.
La numéro 1 du président de la République. Ben, je dis, mais attendez, c'est un avion qui est fait pour le transport passager. 20 moutons, c'est beaucoup. Ça va salir l'avion, ça va sentir pas très bon. Je peux pas. J'exige. Et puis, j'ai dit, mais attendez, en plus, qui va acheter les moutons, avec quel argent? La compagnie ne peut pas acheter. Et d'un seul coup, j'ai une idée, je me dis, ok, je vais essayer de voir ça avec les Camerounais, qui essayaient d'avoir des bonnes relations, et je prends le chef d'escale, qui était un ancien boxeur formant en URSS, qui s'appelait Alandi. Je lui dis, je vais prendre Alandi avec moi, il ira chercher, parce qu'on n'avait qu'une heure d'arrêt, une heure et demie d'arrêt. Je ne voulais pas que l'avion reparte en retard de Douala. Donc j'ai dit, okay, excellent, je vais m'en occuper. Donc je repars, le lendemain, je pars avec Alandi à Douala. Je lui dis, écoute, on a une heure et demie, t'as pas plus, pour acheter ces moutons. Et tu fais attention, je veux pas qu'ils pissent et tout ça. Donc t'essayes de me démerder des couches ou je sais pas quoi pour que les moutons ne pissent pas. Bon, ouais. Alors, au bout d'une heure et quart, bon, rien. Alors j'avais eu un problème déjà avec les bagagistes qui m'avaient mis beaucoup trop de bagages dans les soutes avant. Je voulais réserver la soute arrière au bouton. Et là, je fais repeser les bagages et les Africains ne comprenaient pas pourquoi je devais peser les bagages. Mais ils mettaient les plus légers en premier, puis ils mettaient les plus lourds par-dessus. Je dis non, il faut faire l'inverse. Si je veux embarquer les plus lourds, c'est des valises, trucs comme ça. Le reste, éventuellement, ils prendront ça sur leurs genoux ou on les embarquera sur le vol suivant. Et donc, je m'étais un petit peu accroché avec ça. Bon, au bout d'une heure et quart passée, je ne vois toujours pas Alandi revenir. Bon, je dis au copilote qui était Frang, un général d'origine cambodgienne, que j'allais lâcher comme commandant de bord. Je lui dis, bah, écoute, on va préparer la mise en route. On va démarrer le groupe de parc et tout ça. Et puis, à ce moment-là, on voit des 404 Peugeot qui arrivent,
ouais,
avec des grands signes d'Alandi par la fenêtre. On l'appelait Quasimodo, Alandi, parce que c'était un type, il faisait 1m90, qui était légèrement bossu, comme ça. Mmh. Il nous fait des grands signes et tout. J'ai dit, t'as les moutons? Il me fait oui. Et j'ai dit, ils ont les couches? Oui, oui. Et puis, je vais voir. Effectivement, ils avaient mis des sacs d'engrais chimique. Alors, d'abord, des sacs de jute attachés avec des ficelles. Et par-dessus, des sacs d'engrais chimique.
Ouais.
Par-dessus les sacs de jute, comme des couches, quoi, okay, attachées avec des ficelles sur le côté.
Ouais.
Ah, ben, je dis, c'est génial, c'est au poil. Alors, on monte les moutons, on part, quoi, avec 5 minutes de retard, on décolle, l'avion était assez bruyant pendant la montée, on réduit les gaz, et là, on entend. Il y avait tous les passagers, c'est des gens qui travaillaient pour un barrage quelque part en Guinée, je ne sais plus où.
Ouais.
Ils se regardaient tous entre eux.
Ils savaient qu'il y avait des moutons derrière.
Ils ne savaient pas, mais ouais, là, ils ont compris tout, ouais, de suite. Quoi.
Mmh.
Et
alors, c'est toi qui faisais des bruits d'animaux encore?
Non, non, non. Et là, on débarque à Douala. Bon, bien sûr, les douaniers arrivent, les militaires. Il y avait toujours des militaires sur le parking. Voilà, les bagagistes couvrent la porte arrière. Alors que j'avais dit de faire attention, voilà les 20 moutons qui se sauvent sur le parking. Les militaires lâchent leurs fusils, font comme du rugby, quoi. Ils essayent de plaquer les moutons. Mmh. Certains moutons avaient les couches qui pendaient, alors ils gigotaient de la patte comme ça pour se défaire et tout.
Mmh.
Mais c'était un spectacle d'un comique, mais invraisemblable.
Sur le tarmac.
Ouais. Et puis, le deuxième ou troisième anniversaire, il y a un truc incroyable qui s'est passé. Les Américains avaient déduit que, quelque part, les performances des Africains étaient un petit peu à désirer parce qu'ils n'avaient pas de protéines. Donc, ils avaient installé des poules pondeuses et les Européens avaient installé des bateaux et des filets pour la pêche, quoi. Alors, bon, ben, les Guinéens ont vendu petit à petit les bateaux et les filets aux Nigérians. Et un jour, pour l'anniversaire d'un des petits du président, ils ont tué toutes les poules pondeuses.
Donc,
ils ont bouffé du poulet, mais plus de poules pondeuses. Quoi. Voilà, alors. Pour aller chercher cet avion, c'était assez marrant parce que on a dû faire quelques. J'ai dû prendre l'avion de la Camer pour aller à Paris, puis ensuite Paris-Douala. C'était une expédition incroyable. On est parti de Libreville, on a loué un Cessna 310 avec Montokyo, donc de la coopération. Et puis quand on arrive à Douala, Il n'y avait même pas 100 pieds de plafond et tout ça, quoi. Bon, il y a un ILS, mais on était limité à 200 pieds, un catin basique, quoi. Et là, je ne pourrais pas faire autrement. On était en Afrique, on était quand même encore dans les années 80. Donc on a fait une percée, mais complètement illégale, quoi. Et puis alors, on est monté dans ce 47 qui se posait à Orly, mais je devais reprendre un avion qui allait à Madagascar à partir d'Orly. Manque de peau, c'était un 727 qui était en panne, donc il fallait que j'aille à Roissy pour chercher un avion qui allait à l'île Maurice et de l'île Maurice à Madagascar, après un autre avion. Donc ça devenait assez compliqué. On prend un taxi et il tombe en panne juste à la sortie d'Orly. Mmh. Bon, on a fini par récupérer, mais au tout dernier moment, l'avion de Roissy, on est arrivé à l'île Maurice, ou à La Réunion, j'ai un doute d'un seul coup, enfin peu importe. Et puis on est arrivé donc en retard à Madagascar. Mais tout ça, c'était assez tendu pendant 2 ou 3 jours. Quoi. On a joué sur des horaires, sur la météo, sur des pannes, sur des tas de choses. Ensuite, dans les histoires un petit peu invraisemblables, j'ai eu une intoxication alimentaire à Tananarive. J'ai fait la connerie de manger du poisson à Tananarive. Il faut quand même le faire.
Mmh. Ça, c'était quand tu volais pour Équato-Guinéenne d'aviation.
Oui, toujours. Ah, okay, c'est quand je suis allé chercher l'avion.
Ouais, d'accord. Ouais.
Et donc, je reviens un petit peu à nos histoires en Guinée équatoriale. Et un jour, j'étais à Libreville en train de négocier des chariots à bagages avec un aventurier franco-brésilien qui avait récupéré des chariots et des traquemas et qui a des prix assez intéressants. On mangeait au restaurant de l'aéroclub et on entend une méchante explosion. Et il me dit « Oula, ça c'est pour toi ». Je me retourne et je vois un nuage de fumée qui sort du cockpit de mon avion. Ouais. Alors je pars en courant vers l'avion, à travers le parking, qui était quand même relativement loin. Et là, je vois les pompiers gabonais qui, avec leur lance-incendie, balançaient de l'eau par la porte arrière, d'où sort un peu de fumée, mais surtout la porte avant, où il y avait tout le cœur électrique de l'avion. Quoi. Mmh. Bon, le malgache, le mécano malgache qui était là, a eu le très bon réflexe d'enlever la prise de parc du groupe. Mmh. Et effectivement, la fumée s'est arrêtée. Mmh. Et en fait, on a su par la suite, mais on n'a jamais eu vraiment la preuve, que c'était un attentat subtil des Soviétiques.
Ok. À qui vous aviez un peu piqué
la
place.
Voilà. Alors eux, ils avaient fait un truc vachement sympa. Mmh. Il y avait une boîte qui contenait 20 litres d'acétone. Et c'était bien marqué haut et bas sur la boîte, mais la bouteille était à l'envers dans la boîte. Si bien que les bagagistes gabonais ont mis la boîte correctement haut en haut et bas en bas, mais la bouteille étant à l'envers et pas complètement vissée, ça a coulé dans le cœur électrique de l'avion. Alors quand le mécano a branché, boum, ça a explosé. Quoi. Alors là, pas de liaison à l'époque de téléphoner tout avec la Guinée. Je monte à la tour pour prendre la HF et entre-temps, l'ambassadeur de Guinée était venu à la tour avec moi pour discuter avec le président et dire que l'avion de la compagnie nationale avait explosé. Quoi. Et on a eu du mal à garder notre sérieux parce que l'ambassadeur, qui n'était pas un féru de technique, il parlait dans le micro et puis après il se mettait le micro dans l'oreille.
Pour réécouter ce qu'il venait de dire, peut-être.
Un peu comme les téléphones aux États-Unis il y a 100 ans, quoi.
Ok. Ouais.
Et bon, là donc on a dû prendre des décisions. Réunion des. Alors, la compagnie avait été montée avec une coopération de Royal Air Maroc, Équato-Guinéenne, Air Madagascar, Air Gabon, un petit peu Air France, et puis bon, la coopération qui était très discrète là-dessus. Et puis, donc, une maîtrise d'œuvre par Aéromaritime, UTA Aéromaritime, les compagnies associées. Et donc, réunion technique pour définir comment on allait réparer cet avion. Alors, Veritas dit non, il est volable. Si on le répare, c'est ici. J'y dis, mais attendez, on ne fait pas du transport. Là, je vais convoyer un avion sur la France pour le réparer. Je voulais le faire réparer en France, dans une société qui avait l'habitude de bosser là-dessus avec des Fokker et tout ça. Et c'était du temps de Rousseau Aviation que ces avions-là volaient, d'ailleurs, en France. Et c'était TAT qui avait repris Rousseau Aviation. Bon. Et à un moment donné, on était en train de manger tous ensemble. Et je dis, le président de Madagascar, Ratsirak, là, je comprends pas qu'il ait fait un abri à 80 mètres de profondeur pour se protéger, mais se protéger de qui? Et puis les Russes, comme les Soviétiques, partout où ils passaient, ils piquaient les élites pour les envoyer dans les universités à Moscou, que ce soit le Mozambique, l'Angola, où je suis allé avec l'avion de tapis et Georges Marchais il y a quelques années après. L'Algérie, après l'indépendance de l'Algérie, les Russes sont arrivés, ils ont piqué quelques élites. En général, ils vidaient les zones de pêche, ils piquaient les minerais, ils vendaient des armes. Après, en Algérie, il y a eu des avions en géométrie variable, des MiG-23. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, enfin, peu importe.
Pour les écouler.
Il y avait un des mécanos malgaches qui me donnait des coups de pied sous la table. Je regardais, je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Et puis par la suite, j'ai compris. Dans l'équipe qu'il y avait là, il y avait le frère du président Ratsirak, qui représentait Ahmad. Et il ne s'était pas présenté. Donc, j'étais en train un peu de critiquer son frère et tout. Et ça m'a coûté cher parce que par la suite, quand je suis retourné là-bas pour d'autres raisons, ils ont voulu me mettre en prison. Voilà. Et je m'en suis sorti grâce à... pas l'ambassade de France, mais la mission française de coopération. Et bon, enfin bref, je reviens, et puis je finis par obtenir gain de cause, à savoir qu'on remettrait l'avion en état partiellement pour le convoyer sur Dinard, où était la TAT. Et donc, Veritas n'était pas très content. Au moment d'essayer l'avion, il me dit « Mais vous êtes sûr que ben j'y attendais les mécanos, j'ai suivi ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de problème. Mais si jamais il y a un problème au départ, la piste de Libreville est très longue, je vais y aller mollo, je vais décoller sans eau méthanol. Et à un moment donné, quand je vais faire la rotation, s'il y a une merde, je repose l'avion et on a de quoi s'arrêter sans problème, on est à vide. » Et il me dit « Bon, d'accord, bon, on fait l'essai, tout se passe à peu près bien. Bon, bien sûr, l'avion n'était pas apte à transporter des passagers. » Et on décide de convoyer l'avion. Alors, le premier convoyage, c'était faire Libreville, Malabo. Donc j'avais Frang, le général cambodgien, qui arrivait à Malabo, me dit, moi, j'ai une fille, j'ai une famille, j'arrête là. Bon, j'ai pris un deuxième copie qui s'appelait Issa Amidou, qui était un gars du Niger, très compétent, un jeune gars. Et... il était chargé de me trouver les autorisations de survol du Nigeria et tout ça. Et le moment du vol arrive, il me dit « j'ai pas les autorisations ». Ben, je dis « c'est pas grave, on va survoler le Nigeria à la limite entre la frontière camerounaise et la frontière du Nigeria. Et on va monter très haut, on va monter au 180 ». Il me dit « mais on peut pas ». Là, je dis « attends, je connais l'avion, je l'ai fait ». On est monté au 180, il était gris. Et on a volé de nuit à 3h du matin. Personne nous embêtait. Je voulais me poser à Gardaïa faire le plein. Et à Gardaïa, avant d'arriver à Gardaïa, tôt le matin, les Algériens me demandent « Vous avez une autorisation de survol ?» À l'époque, je parlais encore un peu l'arabe et puis j'avais été instructeur à Air Algérie. Alors, je baratine un peu en arabe et tout ça. Puis finalement, ils m'ont accepté. Je me suis posé à Gardaïa. À Gardaïa... le gars me dit, t'as l'argent pour payer le carburant? Je dis, oui, sans problème. Alors, il faut savoir que quand j'étais en Algérie, une partie du salaire était versée en France, et une autre partie était non transférable, on ne pouvait pas le dépenser, cet argent, il n'y avait rien à acheter. Quoi. Donc, c'était resté sur la caisse d'épargne d'Alger, et j'avais un carnet de chèques, caisse d'épargne d'Algérie.
Et donc, tu payais le fuel avec ça?
Alors, quand le type m'a présenté la note, j'ai payé le fuel, donc on était à Alger, avec un chèque de caisse d'épargne d'Algérie. Il était en train de regarder, il s'attendait à avoir des devises, il ne comprenait pas. J'ai dit, non, mais il n'y a aucun problème et tout. Puis je me suis fait sauver.
Il ne restait peut-être pas assez de sous pour faire le plein de l'avion.
Le plein était complet. L'histoire, c'est que je me suis fait rembourser ça en francs. À l'époque, par UTA, puisque UTA a remboursé. Donc, ça m'a permis. Et pour terminer l'histoire de ce transfert d'argent, quelques années plus tard, il y a eu le crash boursier et j'avais placé 87 000 et quelques francs dans des actions, je ne sais pas trop quoi. Crash boursier, je perds tout. Le banquier me téléphone, on est désespéré. Puis, 5-6 jours après, il m'appelle. Il me dit, je ne comprends pas, il y a 87 000 et quelques francs qui viennent d'arriver. Je dis, mais attendez, ce n'est pas possible. Il me dit, ça vient d'où? Ben, passé à l'agence. Donc, je vais à l'agence, il me dit, ça vient de la coopération française. Je dis, j'ai rien à voir avec la coopération. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, Chirac avait fait une visite en Algérie, et en signe de, en cadeau de bienveillance, tous les fonds des Français qui étaient expatriés en Algérie ont été transférés en France. Okay. Donc, tout ce qui me restait comme agent non transférable, j'ai retrouvé, mais à quelques francs près, c'était quasiment ce que j'avais perdu au crash boursier. Ouais, quoi. C'est, c'est incroyable.
Bah, tu t'es bien débrouillé.
Alors. Ouais, donc, alors, attends, je continue le convoyage. Le copie était quasiment annihilé par la trouille, le froid, parce que l'avion, il n'y avait pas de chauffage. Hein. Le froid et tout ça. On arrive à Dinard, donc c'était à peu près un mois et demi après le crash. Et qui je vois à l'arrivée de l'avion? L'agent Veritas, qui avait été muté sur de Libreville à Dinard. Mmh. Et quand il m'a vu à la fenêtre de l'avion, il s'est pris la tête comme ça, c'était un petit bonhomme blond. Ouais. Il m'aimait pas trop parce qu'il a dû se faire taper sur les doigts, quoi. Il m'avait fait un laisser-passer pour que l'avion vole, mais Veritas, bon, ben, ils sont assez sévères. N'empêche qu'il y a eu énormément de dégâts, quoi, sur cet avion à réparer. L'avion est resté 2 mois. Je suis revenu voir la fin des travaux avec les mécaniciens guinéens, oui. Et on était logés à Dinard, donc à l'hôtel Mercure, à l'hôtel Cristal, Cristal Hôtel. Voilà pour. Donc l'avion revient, on le convoie, des problèmes, on se fait intercepter par des F-16 marocains, posés en catastrophe à Séville, plein réduit avec l'avion. Et puis on a réussi à négocier, à repartir.
Et pourquoi ils vous avaient intercepté?
Bah parce qu'on n'avait pas d'autorisation de. Ils n'avaient pas reçu d'autorisation de survol.
Ok.
Mais à l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication un peu comme maintenant. Ça se passait avec des telex, tout ça, c'était pas toujours évident. Et donc.
Et là, on est en quelles années à peu près pour
87.
Ok. Ouais.
Et on repart. Quand j'arrive sur l'ensemble de pays, le Ghana, Cotonou, enfin tous ces coins-là, là. Le gars me dit, mais vous avez une autorisation de survol? Je fais oui, et puis je donne un numéro d'autorisation complètement bidon. Mais les gars, les pays sont tellement étroits qu'on passe en quelques minutes. Quoi.
Le temps qu'ils vérifient, t'es déjà plus.
Et le gars me dit, on vient de vérifier, votre autorisation n'est pas valable, on va vous faire où vous posez maintenant, ou on vous fait intercepter par l'aviation du Ghana, ou je ne sais plus quel autre pays il y avait dans le coin. Et je savais très bien, je connaissais bien l'Afrique, que les quelques Alpha Jet qu'ils avaient, ils étaient dans un fond de hangar, pas du tout entretenus, incapables de voler. Et puis, on a continué. Et
ils ne vous ont pas intercepté?
Non, que dalle. On n'a même pas eu de suite, d'ailleurs. Enfin, bref. Et par contre, ce qui s'est passé par la suite, c'est que l'avion a volé à peu près normalement. Et puis, un jour, en redécollant de Bata, je m'aperçois que j'avais des problèmes hydrauliques. Enfin, je résume parce que c'est un peu plus compliqué. Et on arrive sur Malabo, et là, au moment de sortir le train, toute la pression hydraulique disparaît. Alors, il y avait quand même des circuits de secours et tout, mais je ne comprends pas. Donc, je me pose. Je savais que j'avais encore des réserves sur les pédales de frein. J'avais droit à 8 coups de frein. Donc, je me dis, j'avais des passagers. Je rejoins donc le parking, le taxi où était en légère descente, et j'avais du vent arrière. Sur cet avion, il n'y a pas de river, c'est petit pas sol, c'est-à-dire c'est comme des grandes voiles quand le vent est arrière. Quoi. Donc l'avion se met à accélérer, et j'arrive, j'étais au moins à 15 nœuds de vitesse sur le parking. Donc je donne des coups de frein pour arrêter l'avion, mais beaucoup plus que ce que j'envisageais, et je me retrouve sans frein. Il y avait au moins 200 personnes qui attendaient l'avion. Je me dis, je ne vais quand même pas rentrer là-dedans. Un avion, les hélices ne s'arrêtent pas instantanément. Donc, je donne un grand coup de moteur à droite pour éviter tous ces gens. Et je me retrouve face au salon d'honneur. Je me dis, bon, je vais redonner un grand coup de moteur. Mais il y avait des casas de l'armée espagnole qui étaient là, sur le côté. J'ai quand même pas flingué 3-4 casas. Puis, il y avait les réservoirs de carburant. Donc, je suis rentré dans le salon d'honneur de Malabo. J'ai été un petit peu blessé au pied. Et les passagers ont évacué, mais en 40 secondes, quoi, parce que les Africains sont quand même réactifs. Ils sont passés au-dessus. J'avais deux hôtesses. Ils ont piétiné, ils sont passés au-dessus.
Ah ouais.
Alors, j'avais une délégation officielle des Gabonais dans l'avion, dont le chef du protocole, qui était un pygmée. Et j'avais eu un problème quelques temps auparavant avec lui, parce que on faisait un vol sur Douala. Et en arrivant à Douala, le contrôle me dit il y a une attente indéterminée parce qu'on attend l'avion du président chinois. J'ai dit, mais attendez, j'ai des passagers, j'ai pas un pétrole infini, ou vous me donnez une butée, ou je me pose, ou vous retournez en Guinée. Ben, je dis non, il n'y a pas question, j'ai des personnalités à bord, je ne veux pas retourner. Et puis bon, le ton s'envenime un petit peu. Je me dis, bon, j'y attendais. Si je suis posé dans 1 minute 30, ça peut le faire ? Elle me dit, oui, je serais curieux de voir ça, me fait le contrôleur africain. Bon, effectivement, plein réduit, je plonge avec le train sorti et tout, et puis moins d'une minute 30 après, je touchais des roues. Mais ce que j'avais pas vu, c'est qu'en plongeant, j'avais pas prévenu les passagers une deuxième fois. Il y en a un qui était pas attaché, c'est le chef du protocole.
Ah oui.
Il est monté au plafond, il est redescendu.
Le pygmée en question dont tu parlais.
Oui, le pygmée. Ouais. Donc il est venu me trouver en me disant que j'étais un pilote un peu folklorique, qu'il se souviendrait de la chute qu'il a fait et de la rigolade qu'il y a eu dans le derrière. Tu vois. J'ai écouté, je suis désolé, c'était ça, on repartait à Malabo. Bon, enfin bref. Et là, donc, suite au crash dans le salon d'honneur, il vient me trouver, il me regarde les bras croisés. Parce qu'il m'avait demandé où on allait s'arrêter au départ de Bata. Je vais vous dire ça. Là. Je lui ai dit, ben, pour pouvoir positionner les gens et tout, j'ai dit, écoutez, je m'arrête devant le salon d'honneur, ils vont dérouler un tapis rouge, vous sortirez par l'arrière. Il vient donc me trouver, il me dit, vous êtes quand même rigolo, vous. Vous m'avez dit que vous arrêtiez devant le salon d'honneur et pas dedans.
T'as raccourci un peu la distance pour lui, ouais. C'était plus rapide après.
Mais bon, bah, y a pas eu de blessé, à part moi, j'ai été un peu blessé au pad par un aller-retour des palonniers. Bon, l'avion, à l'époque, c'est dommage, on n'avait pas les photos faciles, mais il était assez esquinté quand même.
L'avion qui venait d'être réparé.
Oui, justement, mais en fait, ça venait d'une tuyauterie hydraulique. Ils avaient été obligés de refaire un collet battu et ils avaient fait ça sur un chariot à bagages à Bata, sans me le dire. Et ça a pété, il y a 3000 PSI là-dedans, ben ça a pété là, quoi. Alors...
Sacrées histoires, hein. Équato-Guinéenne d'aviation.
Alors, une autre fois, je fais un Libreville-Bata-Malabo, et il faisait très très mauvais, c'est le golfe de Guinée, c'est un des endroits où il pleut le plus au monde. Je crois que la hauteur de pluie dans ce coin-là, ça doit être 11 mètres par an, un truc comme ça, de mémoire, 10-11 mètres. Donc les moyens de percer, ben, les radios compas, ça marchait pas tout le temps, il n'y avait pas encore d'ILS, tout ça. Donc on faisait une percée, on s'aidait de la radio-sonde, du radar météo en mapping et du radio compas, que j'avais l'habitude d'utiliser, qui était quelquefois un peu oscillant, et puis des vores de Port-Harcourt, de Douala, et un peu en arrière, mais bon, on était en limite de portée des vores, surtout dans les basses couches, et l'aiguille aussi un petit peu, quoi. C'est pas très précis. Et donc on descend, j'avais l'image radar de Lille, et j'avais un relevé radio-compas, je décide donc de descendre à 500 pieds. Mais avant de caler la radio de 500 pieds, j'avais de l'Afrique, je la mettais à 100 pieds pour avoir une alerte avec la lampe de la radio-sonde. Et à un moment donné, alors ça c'est une histoire invraisemblable, je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule gauche, il n'y avait personne à gauche, hein. Quelqu'un me tape sur l'épaule gauche, et au même moment, je vois l'aiguille de la radio-sonde qui commence à bouger. Donc j'ai foutu plein pot, j'ai cabré, mais vraiment, à tel point que Franck qui était à côté de moi, il m'a dit, moi j'ai pratiquement eu la tête sur les genoux, et j'ai vu la lampe de la radio-sonde s'allumer. Et en fait, ce qui se passait, c'est que la précision des moyens de radio-navigation faisait que on savait pas exactement où on était, mais l'image radar que j'avais cru bonne n'était pas bonne. C'était en fait une couche de nuages très humides qui avait coiffé à un moment l'île de Malabo et qui s'était déplacée très légèrement, si bien que mon image était fausse. Enfin, j'ai ça à vos explications. Ce que je souligne là, c'est qui est-ce qui m'a tapé sur l'épaule, quoi. C'est fou. Hein.
Ton ange gardien.
Mais j'ai eu quelques histoires comme ça dans ma carrière. Une autre fois, en prospectant d'uranium au Sahara, là, pareil, j'ai eu une intervention comme ça. Franchement, un peu sidéré. Je raconterai ça une autre fois, parce que je veux pas trop m'égarer. Alors, autre histoire, l'aérospatiale, à l'époque, vendait des ATR-42, et ils voulaient en vendre un du côté de la Réunion, ou de ce coin-là, je ne sais plus, ou des Comores, peut-être, je ne sais plus. Et ils faisaient une tournée de démonstration. Une des récompenses de la France sur la Guinée, c'était la vente des ATR-42 dans la nouvelle compagnie, une fois que la compagnie avait pris son rythme de croisière. Donc ils passent. On fait quelques vols de démonstration et le président voulait aller à Bata. Donc les officiels montent dans l'avion et le président dit « Mais je voudrais que El Comandante soit à bord aussi. » Bon, alors je m'installe sur un jump seat. C'était deux pilotes de l'aérospatial, des types chevronnés sans problème, mais très casque à pointe quand même. Et alors, au départ, je leur dis « Je ne veux pas trop vous influencer, mais vu la météo qu'il y a dans le coin, ce serait bien que vous fassiez vraiment un plein sérieux. Quoi. Pas le plein réglementaire, il faut vraiment prendre du carburant. Ouais, mais on est un peu limite. Je dis, les pistes ne sont pas limitatives, n'hésitez pas. » Et on part sur Bata. On arrive à Bata. Pas de radio compas, ça ne marchait plus. Ils ne savaient pas trop où aller. Alors je leur dis, faites une erreur systématique. Au radar, il y a la côte, là, qui est rectiligne. Vers le nord, vous percez sur la mer. Et puis vous revenez sous la couche, donc on sait que le terrain sera un peu plus au sud, on redescendra la côte en visuel par le sud, vers le sud. Ah non, 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 j'ai dit, attendez, si vous annoncez au président qu'on retourne à Douala, ils étaient devenus en pas trop bons termes, j'ai dit, ça va pas le faire, et Libreville, j'ai pas encore la météo de Libreville, mais s'il fait mauvais là, Libreville, il fera peut-être pas beau. Donc, faut, à mon avis, le plafond doit être de 400-500 pieds, ça va largement au-dessus de la mer, il n'y a pas de problème.
C'est bon. Sportif comme manœuvre, quand même.
Oui, mais enfin, bon, à l'époque, en Afrique, ce genre de truc, ou ailleurs, ça se pratiquait pas en Europe, bien sûr, ou dans les pays un petit peu occidentaux, ça se faisait pas, mais là, bon. Alors, effectivement, d'espoir de cause, ils font le truc, ils percent sur la mer, avec un vario très faible, 500 pieds, effectivement, boum. On voit la mer arriver sous la couche et on remonte, comme prévu, sur la côte au radar, faisant une erreur systématique et on redescend ensuite vers le sud et on tombe effectivement sur le terrain qui est à peine visible. Souvent les pistes en Afrique, on ne les voit pas trop. Surtout là, elle était parallèle au rivage. Et je leur dis, j'y prévoyais un atterrissage court parce qu'il y a des animaux qui peuvent traverser, mais surtout, la nuit, les éléphants ou les zébus, enfin les buffles, là, ils viennent poser des crottes énormes, quoi. Alors,
il faut connaître le coin quand même pour savoir ça, il n'y a pas des notables. Alors,
mais... on se pose, mais enfin l'atterrissage, ils ont dû éviter deux ou trois grosses bouses, tu vois, d'éléphants qui traînaient par là. Et tout le monde sort et le président vient me trouver et me fait « J'ai bien fait de demander que le capitaine, le commandante soit à bord, tu vois, les gars de l'aérospatial. »
Ils ont dû être piqués dans leur ego, là.
Un peu. Alors, maintenant, la compagnie, à travers un petit peu ces événements, pendant la réparation de l'avion, on avait loué un Fokker 27 à Sao Tomé, mais les pilotes n'avaient fait que Sao Tomé, Bata ou Sao Tomé Libreville. Ils n'étaient jamais sortis de ce truc-là depuis des années. Donc faire Malabo Douala ou Malabo d'autres terrains sur certains vols à la demande, ils n'étaient pas très sûrs d'eux. Alors, donc je les accompagnais et je me suis aperçu que le niveau de ces gars-là à l'époque était quand même pas terrible. Quoi. Ils s'étaient laissés aller, ils s'étaient jamais de contrôle, rien. Quoi. Et à un moment donné, le gars de la coopération, Lionel Montocchio, me dit « Bah dis donc, la boîte tourne à peu près bien, on a une boîte en ligne maintenant, ce serait bien qu'on fasse une petite boîte d'avions à la demande. » Pour les officiels, ça les empêchera de demander des réquisitions sur les avions et tout ça. Et puis, si ça se développe pour les pétroliers, pour tous ces trucs-là, ce serait bien de faire... Je lui dis, écoute, il existe deux boîtes qui marchent vachement bien. Une au Cameroun, qui s'appelle Ardic ou je ne sais plus quoi, et une autre au Gabon, qui marchait très bien, c'est RFR Gabon et toutes ces boîtes-là. On ne peut pas leur faire concurrence. Ici, je tiens absolument... Enfin, il y avait le fameux projet secret de pétrole sous la Guinée, et ils voulaient déjà préparer ça, mais à l'époque, on ne le savait pas. Enfin, moi, je ne le savais pas vraiment. Et je dis en plus, attends, mais... Comment calculer les prix avec ça? Bah, tu vas le faire. Je dis, bah, tu sais, un avion, tu as des prix fixes, des prix variables. Je dis, en prix fixe, ça dépend si on la jette, si on le loue. Mais j'ai trouvé quelqu'un, l'avion de marché, patron de la TAT, il va nous louer l'avion. Je dis, qu'est-ce que c'est, un Beach 90? Je dis, oui, effectivement, ben, faut que tu ailles le chercher. Mais je ne l'ai pas qualifié sur l'avion, donc je pars le 12 août à Tours. Et il y avait juste un mécano qui était là pour me filer l'avion avec les papiers et tout. Je dis, mais attendez, je ne suis pas qualifié sur l'avion, là. Mais j'avais fait du PT-6, j'avais fait du Twinotter, j'avais fait d'autres types d'avions. Bon, j'ai dit ok. Fallait que j'aille faire la douane à Dinard. Donc j'ai pris l'avion et je suis parti à Dinard.
Et là, t'as retrouvé ton copain de Veritas
Ah non, non,
non. Heureusement.
Et là, donc j'ai fait ensuite, j'ai convoyé l'avion Dinard, Malabo. Alors, pareil, des autorisations de survol, du grand folklore, quoi. C'est... Et puis, arrivé là-bas, bon, bah, l'avion est resté des jours et des jours sans voler. Et Lionel me dit, mais on loue peut-être trop cher. J'ai dit, ouais, mais je dis, là, la location, c'est des prix fixes, on ne peut pas jouer avec. Le reste, c'est les taxes d'atterrissage, le fuel, l'équipage et tout. Il me dit, bah, on n'a qu'à prendre que les frais fixes. On n'a qu'à le vendre au niveau des frais fixes seulement. J'ai dit, qui va payer le reste? Et donc, on a eu du mal à lancer cette activité d'aviation d'affaires avec cet avion, quoi. Et par contre, c'est un très bon avion, vraiment.
Et c'est toi qui volais dessus, après, aussi
Bah, j'ai lâché, bon, j'ai rembauché deux autres pilotes par la suite. Mmh. Un jeune là, qui s'appelait Eric, je ne sais plus trop le nom.
T'as lâché des gens sur un avion sur lequel tu n'étais pas qualifié. C'est pas mal.
Non, mais c'est marrant parce que j'ai dû créer les licences en Guinée équatoriale.
Okay.
Et les licences, bon, j'allais pas réinventer le fil à couper le beurre. J'ai pris l'annexe, je sais plus combien, de l'OACI. Et j'ai fait un copier-coller pour les licences du personnel navigant. Et j'ai eu le numéro 1 de la licence de pilote de ligne de Guinée équatoriale.
Ah, pas mal. Tu l'as gardé, tu l'as mis sous verre.
Bon, je sais pas, il doit être par là, dans mes papiers, là, tu vois. Mmh. Et bon, puis petit à petit après, ça s'est étoffé, bien sûr. Mais c'était suffisant à l'époque, quoi, tu vois. Mmh. Bon, c'était copié sur les licences américaines, en fait. Hein. Mmh. Et, licence américaine qui était relativement faiblarde parce qu'elles avaient été créées pour permettre aux pilotes militaires, surtout du Vietnam, de voler dans le civil. Comme les gars étaient très bien formés, bon, ils avaient mis le minimum. Après, ils ont été un peu plus sévères, mais pour les Américains, mais pour les étrangers, le niveau était vraiment très très faible. Moi, j'ai volé avec des gars qui avaient des licences américaines dans les années 70-80. C'était un petit peu un pilote privé amélioré, quoi. Hein. Mmh. Et, enfin... J'avais fait la remarque à un gars de l'AFA, un des inspecteurs de l'AFA, qui m'avait dit bah, « À l'extérieur des États-Unis, que les avions se crachent, on s'en fout, c'est nous qui les vendons.
Mmh, » ouais. Ouais, même...
c'est... Okay. Ouais, c'est pas terrible comme remarque.
Ouais.
Mais il y avait des licences où c'était marqué « Not available for flying over USA ».
Ok.
C'est, donc tu vois, les mecs ils prenaient quand même.
Mais c'était quoi, c'était en fonction du niveau du stagiaire, toi,
ouais. Ouais, bah,
c'est-à-dire aller voler partout ailleurs, mais pas là.
C'est-à-dire que le type savait décoller, poser l'avion, virer, utiliser moyen de navigation et parler un petit peu en anglais. Il avait son truc, quoi.
C'était, ouais.
Surtout quand les gars ne trichaient pas, parce qu'à l'époque il y avait des questionnaires, quelques questionnaires qui circulaient. Et les gars ils copiaient un petit peu ça. Et même pour un ATPL, hein. Il y avait de sacrées surprises quand même. Hein. Mmh. Et moi, j'ai volé un jour avec un gars où j'étais là. Attends, je crois que j'étais en Algérie. Non, non, non. C'est quand la France a vidé son panier de pilotes en 88. Il n'y avait plus de pilotes. Donc il y a des gars qui sont arrivés de partout. Et je volais pour une boîte qui s'appelait Luxair, une boîte de cargo sur Fokker 27. Et j'avais un copie. Je ne veux pas donner son nom parce qu'il est toujours en vie. Assez âgé déjà, et en finale à Roissy, en venant du Luxembourg ou de Bruxelles, je ne sais plus, en finale là, il était en train de mettre 110 au torque à gauche et 40 à droite. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? L'aile droite n'est plus soufflée, on est en léger frein, là, la transparence est 80 ou 100 PSI là-dessus. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Il me dit, non, non, mais c'est ce que je fais. Et puis il m'explique que sur les bateaux, quand il y a du courant, ben, il met de la puissance dissymétrique. Je dis, non, mais ça va pas. Je dis, tu me poses l'avion normalement, avec le même torque sur les deux moteurs. Pour te dire...
J'ai pas compris, c'est parce qu'il y avait du vent de travers.
Oui, c'est ça, j'ai oublié de le dire.
D'un côté que de l'autre.
Voilà, voilà. D'accord. Mais lui, mais ce qui est complètement dingue, tu vois. Je dis, mais à un moment donné... On est quand même à au moment de l'arrondi, on est à des vitesses pas très loin du décrochage, par définition. J'ai commencé à dire, tu risques de, y a une aile qui est pas soufflée, l'autre qui est soufflée, surtout sur un Fokker avec la taille de l'hélice qu'il y avait, quoi. Mais c'était pour montrer le niveau des gars, quoi. Une autre fois, juste pour terminer là-dessus, on volait à haute altitude, vers le niveau 180, et, ça vibrait un peu. Alors, je dis au copain, je dis, ben, ça doit givrer un petit peu au niveau des hélices, change un petit peu le fuel trim, on va changer un petit peu le régime des moteurs, on va donner 2 ou 3 coups d'hélice pour faire péter la glace. Bien non, je sais d'où ça vient. Et il me sort la météo, il me montre qu'il y avait un jet stream et qu'il était plein travers. Je dis, mais attends, on est dans une masse d'air, on se déplace dans la masse d'air. Je dis, je vois pas pourquoi le jet stream nous fait vibrer l'avion, quoi, tu vois. Et pour te montrer que les notions des gars, les notions qu'avaient les gars n'est pas du tout assimilées, quoi. Ils étaient vraiment d'un niveau incroyable.
Et ça me rappelle une histoire au Sénégal où il y avait un pilote qui me soutenait mordicus, que il faisait une évacuation sanitaire, il y avait un problème de verrouillage sur la porte du King Air qui était sur la gauche. Et il me disait, ah mais moi j'ai pris la bonne décision, j'ai fait que des virages à droite pour pas que le passager tombe à gauche. Ok. Très
bien. Ah ben, à propos du Sénégal, un jour je bossais à Africair, là, qui était là, quand Air Sénégal a été repris par le gouvernement, le mec, il a refondé Africair, qui est une boîte de troisième niveau avec des petits avions, des monomoteurs et des bimoteurs, enfin bref. Et un jour j'étais avec le mécano, qui était le mécano qui avait fait l'armée, un petit type parisien. Je dis, ça va ? On l'appelait Poulet. Je dis, ça va, Poulet ? Non, ça va pas ! Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et puis il me raconte la dernière. Alors, il y a un pilote qui était parti avec un Aztec sur le parc du Nyokolokoba, tu vois, avec des passagers. Et puis, en finale, sur la piste, il s'aperçoit que le train n'était pas sorti. Il remet les gaz, mais les hélices sont touchées. Alors, bon, au lieu de dire merde, et puis de laisser l'avion se terminer, il a foutu plein pot, il a redécollé, ça vibrait de partout, il est reparti, avec les passagers qui claquaient des dents, il est reparti à Dakar.
Ah oui,
à Dakar, c'est ça.
Ah, ça fait une trotte en plus.
Ouais, ça fait une trotte. Il arrive à Dakar, il pose l'avion, il dit aux passagers, je suis désolé, les passagers l'engueulent et tout, et puis il met une pancarte sur l'hélice, avion indisponible, c'était un samedi. Le mécano arrive le lundi matin, il voit avion indisponible, il décapote. Un des moteurs n'était plus que par un boulon. Tous les boulons avaient pété par les vibrations.
Il n'est pas passé loin. Ouais. Lui aussi, il y a son ange gardien.
les hélices, elles étaient tordues au bout.
Hein. Ouais.
Une autre histoire dans le même genre, j'étais avec un push-pull à Saint-Martin, mais la partie française à l'époque c'était une piste qui faisait 400 mètres. Mais il y avait un petit banc de sable avant, alors l'astuce c'était de poser avant le banc de sable comme un boom, surtout avec les trains faciles, les Cessna là, et de terminer donc sur la piste. Il y avait
avec
une petite marche.
Ouais. Okay.
Et c'est la consigne, quoi. Il y avait une petite marche là. J'arrive avec le push-pull en bout de piste et je vois un Cherokee. Non, c'était un Aztec. Ce coup-là, c'était un Aztec. Qui se pointe. Et puis, il touche, mais il rebondit pas. Il se tape la marche. Le train droit s'efface et il glisse avec l'aile droite sur la piste. Il va prendre feu, quoi. Avec l'essence est dans les réservoirs et tout. Et là, je vois des Antillais qui sortent en se tapant sur les cuisses, morts de rire, contents d'avoir échappé à un désastre. Donc, j'arrête mon avion, puisqu'il était au milieu de la piste. Puis, je vais les voir. Et l'hélice était quand même pliée et tout ça. Je dis, mais c'est la première fois qu'on vient là. Je dis, oui, mais la coutume, là, c'est de faire ça, le petit rebond et tout. Oui, on l'avait dit, mais on ne savait pas. Enfin, bref. Et puis, ils vont voir un copain antique qui les attendait avec une camionnette. Et ils sortent une barre de ferraille de la camionnette. Ils se mettent à plusieurs sous l'aile. Ils ressortent le train. Et je dis, mais l'hélice... Et avec un marteau et une cale en bois, ils ont tapé sur l'hélice et ils sont repartis 2 heures après. Ça, c'était en 72.
Hein. Ouais. Ok. Là, je pense que ça aurait hérissé un peu les poils dans le dos à ton ami chez Veritas.
Oh là 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 là. Non, c'est dingue, quoi.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces petites anecdotes. C'était très sympa. Toute la partie en Guinée équatoriale, ça avait pas l'air triste. J'ai quelques petites questions pour toi maintenant. La première, c'est par rapport à l'aviation de ligne. Donc, on n'en a pas trop parlé dans ce deuxième épisode, mais tu as aussi été pilote de ligne, commandant de bord chez Air France.
Entre autres,
oui.
L'aéropostale, Air Inter, Air Algérie, Air Polynésie.
Ok. Ouais, donc, une grosse expérience en ligne aussi. Pour beaucoup de jeunes qui veulent devenir pilote, ce qui attire, parce que c'est ce qui est le plus visible, c'est l'aviation de ligne. Quasiment tous les enfants, je le vois aujourd'hui, jettent un coup d'œil à ce qui se passe au poste quand ils rentrent dans l'avion. On voit régulièrement passer les équipages dans les terminaux, etc. Mais il y a plein d'autres types d'aviation, et tu es bien placé pour le savoir. Je me souviens même que la première fois qu'on s'était appelé, tu disais au téléphone que la ligne ne t'attirait pas au début de ta carrière.
Non.
Parce que tu voyais ça un peu comme la grande ligne droite avec le trou au fond.
C'est ça, c'est un petit peu ça, oui.
Ouais. Et donc ma question, c'est qu'est-ce qu'il faut savoir, selon toi, avant de décider de l'aviation ou du type d'aviation dans lequel on veut se lancer ? S'il y a un jeune aujourd'hui qui dit « moi, je veux être pilote, mais je ne sais pas quoi ».
Alors, ça dépend pour quelle motivation il veut être pilote, quoi. Il y en a, ça va être basiquement pour l'uniforme, la paye, encore un peu le prestige, beaucoup moins que dans le temps, parce que le prestige naît aussi des héros de la guerre, des dangers qu'il y avait jusque dans les années 80, où il y avait quand même pas mal de crash. Hein. J'en ai connu quelques-uns spectaculaires quand même. Donc la proximité de la mort, le prestige uniforme, le salaire qui est quand même un peu correct, là, tout ça, ça joue. Et puis, il y a d'autres motivations qui sont plus saines, qui sont un petit peu la curiosité technique, parce que ben, l'aviation touche à tous les domaines, hein, la météo, l'aérodynamique, la mécanique du vol, l'électronique, l'informatique, tout ça. Et ça donne une culture dans notre monde moderne qui permet un petit peu de déboucher sur des tas d'intérêts. Il y a ce côté, il y a les voyages aussi, de découvrir le monde. Il y a aussi les ambiances dans les compagnies, qui quand même en général sont plutôt bonnes, entre les équipages, bien que là encore, les événements, le terrorisme et tout, aient beaucoup atténué cette ambiance, entre autres entre le PNC et le PNT, puisque maintenant les cockpits sont stériles, hein, la porte est fermée, on a accès difficilement au cockpit suite aux attentats et à toutes ces choses-là. Pareil, en escale, dans le temps, il y avait vraiment des vies intenses en escale, qui sont beaucoup moins intenses maintenant. Bon, il y a des raisons pour ça. C'est, d'une part, on essaye de minimiser les frais de découcher. Les avions sont beaucoup moins en panne. Je me souviens, moi, de certaines pannes, on restait bloqué 8-10 jours pour dépanner l'avion. Mmh. Donc, quand on est en équipage, on finissait par vraiment être comme des frères et sœurs. On essayait de meubler le temps, de se balader avec des bateaux, de louer des avions, de visiter des villes, des musées, des trucs. Ça a développé vraiment, alors que maintenant, les vols, la plupart du temps, se font dans les 24 heures, quoi. Ou avec un découcher où on est fatigué, on repart le lendemain, voilà. Il y a ça qui joue. Alors, l'intérêt aussi dans les autres types d'aviation, c'est que ben, on devient spécialiste dans un domaine. Par exemple, un pilote agricole, vous devenez un spécialiste comme pilote agricole. Sur les réglages du système d'épandage, sur les produits chimiques, sur le contact que vous avez avec les agriculteurs, sur le fait de voler en basse altitude, de faire des demi-tours un petit peu en voltige, ou alors différents métiers, de la photo aérienne, j'en ai fait, c'est intéressant. L'appui artificiel, j'en ai fait aussi. Ça fera l'objet sûrement d'histoires à raconter dans quelques temps. Et les convoyages d'avion, j'ai beaucoup aimé parce que on tire parti au maximum de l'avion et on lui rallonge les pattes vraiment avec des astuces. Qu'on ne se passe que de pilote-convoyeur en pilote-convoyeur. Par exemple, avant de faire un convoyage, on est chez les mécaniciens, chercher le manuel du moteur de l'avion ou des moteurs de l'avion, et on regardait un petit peu les vraies limitations sur le surcouple, sur les pressions d'admission en fonction du surcouple et tout. La vocation de ce métier peut être multiple, hein, comme je le disais au tout début de cette conversation. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de joie et de plaisir à faire tous ces métiers dans l'aviation, y compris instructeur. Instructeur d'aéroclub, c'est quand même assez intéressant. Tu rencontres des gens de tout milieu qui ont quand même en général assez bien réussi parce qu'il faut quand même de l'argent pour se payer un brevet de pilote. J'ai eu beaucoup d'amis, je me suis créé beaucoup d'amis comme ça à travers les différents clubs. Il y a aussi, après j'ai fait de l'instruction professionnelle puisque j'ai été jusqu'à l'IPP1. À l'époque, le PP1 c'était un petit peu un PL français, quoi.
Okay.
Parce qu'on travaillait des gens d'équipage et tout. Et il y a aussi le fait de faire du vol à voile, de faire des remorquages, tout ça, tout en étant pilote professionnel, ça m'est arrivé. Là aussi, c'est assez sympa, les ambiances d'un club de vol à voile, puisqu'on s'est croisés, nous, à Ploërmel, où j'étais pilote remorqueur, et tout ça, moi, j'ai trouvé ça très, très motivant. D'ailleurs, beaucoup de nids de pilotes ont pris naissance dans des grands centres de vol à voile. Ploërmel, il y a aussi quelques-uns qui ont continué hein, dans la ligne ou dans l'armée de l'air ou l'aéronavale. Mais des centres comme Angers, il y a eu quelques dizaines de pilotes sur une trentaine d'années qui ont été formés à Angers, au centre de vol à voile d'Angers. Mmh. Et puis d'autres centres de vol à voile connus à l'époque. Beaucoup de gens d'Air France venaient de ces centres-là.
Mmh. Donc, pour résumer un petit peu, c'est déjà savoir si on aime ça en faisant potentiellement du planeur ou des légers ou des choses comme ça. Et après, voir en fonction de ce qui nous plaît, est-ce que c'est les aspects plus représentation, salaire ou la technique.
Oui, c'est ça, c'est tout un ensemble qu'on peut retrouver aussi dans la marine. Hein. Les gens font du bateau à voile ici, là, puisqu'on est à Saint-Malo et tout ça. Mais beaucoup souffrent de la routine dans ces métiers. Parce que c'est des métiers qui s'automatisent, c'est des métiers qui n'offrent plus de surprises comme on a pu le voir quelquefois, heureusement dans certains cas. Il y a quand même, par exemple, beaucoup moins de pannes. Les pannes étaient des espèces de mini-aventures quand c'était pas trop grave. Mmh. Hein, j'ai des tas de souvenirs, moi, de pannes à gauche ou à droite. Il fallait se démerder pour faire venir un alternateur et puis donner un coup de main. Je ne sais pas si j'ai raconté, mais un jour avec Tapie, on part avec la Corvette sur le circuit de course de Monza avec une douzaine de journalistes à bord. Et Tapie me dit, il dit, tu me laisses faire un petit peu, je voudrais un peu mousser vis-à-vis des journalistes. Je dis, ok, pas de problème. Donc comme j'étais IPP1, Tapie était en instruction, il s'émerde déjà là, très bien, je l'ai mis à gauche, place comme en bas, et je me suis mis à droite. Quoi. Et au moment de démarrer, il a hésité, il a démarré le premier, puis le deuxième, il a appuyé deux fois sur le démarreur, et il a pété l'axe gêné des démarreurs. Alors, il faut savoir qu'auparavant, pour mettre les bagages dans la soute arrière de la Corvette, moi, j'avais une boîte en carton, deux fois la taille d'une boîte de chaussures, trois fois la taille d'une boîte de chaussures, avec des pièces de rechange. Il y avait un axe gêné démarreur, il y avait des boîtiers haute tension pour des bougies, des ignition, là, des éclateurs, des choses comme ça. Et comme c'est lui qui voulait charger la soute à l'arrière, il prend ma boîte, il me dit « André, j'en ai ras-le-bol de tes tics de pilote de brousse ». Et il jette la boîte à travers l'avion. Mmh. Alors je ramasse un peu les pièces, je les mets sous les sièges, dans les petites boîtes. Et je reviens donc à la séquence démarrage, il pète l'axe gêné. Il me dit, c'est quoi ça? Ben, je dis, le vol est foutu, là. Mm. Il me dit, mais tu te rends compte, on va perdre la phase. J'ai loué un Falcon chez Eurofalcon Service, ou Falcon Jet, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, cette boîte, chez Dassault, là. Et puis là, je dis, attends, mes tics de pilote de brousse vont peut-être nous servir. J'ai un axe gêné, là. Je vais voir avec le mécano. Je dis, on n'a qu'à dire aux passagers qu'on a un problème de clairance, qu'ils aillent prendre un café chez Leader, qui était juste à quelques mètres. Et on voit ça dans une demi-heure. Bon, effectivement, il baratine un peu les journalistes et il quitte l'avion. Il ne s'était pas rendu compte de grand-chose. Je vais voir le mécano que je connaissais bien. Je lui dis, écoute, voilà ce qui se passe. Il me dit, si tu me donnes un coup de main décapoté et autre, ça se fait. Mmh. Bon, moi, je dis, ok. Donc, j'ai donné un coup de main. En 20 minutes, il a changé l'axe démarreur de la génératrice, gêné démarreur. On a remonté, on a fait remonter les passagers, hop, on est parti pour aller à Monza. Et Tapie, pendant la montée, me dit, ça fait combien de temps que je t'ai... Ton salaire, c'est combien? Alors, j'ai dit, attends. Puis ça fait combien de temps que je n'ai pas augmenté? J'ai dit, tu ne m'as jamais augmenté. Mmh. Il m'a augmenté 30% d'un coup.
Ah oui, ce jour-là.
Ouais, il avait fait le calcul que s'il avait dû louer un Falcon à Europe pendant un week-end, tu vois, ça couvrait ma masse salariale pendant quelques temps. Ouais. Tu vois.
Mais heureusement qu'il a pété la gêné démarreur ce jour-là.
Ouais. Oh, il était vachement sympa.
Ça se passait bien, les vols avec lui, ouais, c'était...
Ah, pas facile. Hein. Ouais. Pas facile, parce que si tu montres trop de personnalité, ça dégénère en conflit.
Ouais.
Tu veux que je t'en raconte une autre?
Ouais, bon. Carrément.
Alors, là, tu veux que je te parle un petit peu de Bernard Tapie, avec qui je suis allé pendant 3 ans, je crois, 3 ans et demi, je ne sais plus. Un jour, on décolle de Nice pour aller à Genève avec des passagers, des gens assez importants apparemment. Et voilà, le 727 Air France décolle devant nous et demande, je crois qu'il est allé à Cologne ou je ne sais pas où, il demande un niveau assez élevé. Et Tapie faisait la radio et je l'entends demander un niveau de vol dans le genre 3-10 pour aller à Genève, quoi, qui est tout près de Nice. Mmh. Je lui dis, mais Bernard, ça passe pas, tu demandes le 2,80, c'est plus rapide, et puis le 3,10... mais Air France demande bien le 3,50. J'ai dit, mais Air France, il ne va pas à Genève. Il va... Alors, on s'accroche un petit peu. Et puis, le contrôle dit, bah, de toute façon, là, le 2,80 est pris, vous allez au 3,10. Bon, OK. On monte. Puis, à un moment donné, il me dit, mais la bille n'est pas au milieu, on est en pilote automatique. Je lui dis, bah, tu déclenches le pilote automatique, tu règles la bille au milieu et tu remets le pilote automatique. Et puis, il n'arrivait pas. J'ai dit, mais c'est simple, le pied repousse la bille. Mmh. Je dis, regarde. Ah ouais, effectivement, alors il remanche le PA. Et à ce moment-là, il y a un passager qui arrive et qui dit, je suis désolé, je ne peux pas aller à Genève, je n'ai pas de passeport ou je ne sais plus quoi. Je dis, vous allez rester dans l'avion. Mais non, mais c'était prévu de rester tout l'après-midi à Genève. Alors, je dis, dans ce cas-là, il faut se poser à Chambéry, vous prendre un taxi et puis aller à Genève en taxi. Ouais, d'accord, c'est ce qu'on fait. Alors, je renégocie la clairance pour aller à Chambéry. Mais pendant ce temps-là, Tapie avait mis le PA, puis sur la manche de la corvette, t'as le trim de direction qui est sur un cône, comme ça, droite-gauche, et le trim de profondeur en même temps, et t'as, sur l'autre corne, tu as le basculement des ailerons. Et là, à travers le PA, il essayait de mettre la bille au milieu, mais la bille faisait ça, tu vois, elle faisait un balayage dans le tube, pendant que je parlais à la radio. À un moment donné, on arrive vers le 3,10, la vitesse avait bien baissé. Je lui faisais signe, parce qu'il était accaparé avec ça. Je lui faisais signe que la vitesse. Et à un moment donné, le PA s'est déclenché, clac. Et l'avion est parti en abatté. J'ai eu vraiment très très peur, parce que les pilotes d'essai s'étaient tués avec une corvette en vrille. Et là, ça ressemblait beaucoup à comment t'appelles ça, un départ en vrille. Ce devait peut-être pas être le cas, mais c'était quand même une figure un peu bizarre, quoi. Le nez était vraiment très bas sur vers le sol. Donc, pour faire une leçon un petit peu, j'ai essayé de prendre de la vitesse, j'ai pris les commandes, et j'ai fait une ressource à environ 3G, tu vois.
Ah ouais.
Donc, tout le monde un peu tassé là-dedans. Tapie, je vais te filer du Valium. Je dis, Bernard, arrête tes conneries. Je dis, bon, maintenant, il faut préparer Chambéry, c'est juste à côté. C'est pas de la tarte, Chambéry. Bon, j'admets que j'ai déconné. Tu me laisses faire la percée à Chambéry. J'écoute. Normalement, on fait une autorisation spéciale pour se poser à Chambéry en IMC. Tu me prends pour un con. Enfin, Bernard avait ce côté-là un petit peu, quoi. J'y fais gaffe. Regarde bien ta feuille de percée. Je vais prendre la météo. Je vais faire le contrôle et tout. Mais apprends la feuille de percée. Ouais, pas de problème. Alors, c'est vrai, il avait des capacités, quoi. Mais alors, t'arrivais sur un hold. Et ensuite, du hold, tu rejoignais l'axe. C'était relativement compliqué. Alors je dis, Bernard, tu l'as fait pas en raw data, tu me l'as fait au directeur de vol, tu me laisses l'identificatif en sourdine des radiocompas, et si tu fais vraiment gaffe au primaire, parce que sur la corvette, t'avais donc le flight director, c'est deux grandes aiguilles comme ça, et le primaire, c'est deux petites aiguilles que tu voyais à peine derrière. Ouais, pas de problème. Et puis à un moment donné, il avait du mal, en passant vers 1000 pieds, on était dans la couche, il avait du mal à suivre, tu vois. Et je reprends le truc, et on sort de la couche, et quand il a vu les parois de chaque côté, il a une peur rétrospective, quoi. Et on s'est posé, mais ça l'avait un peu secoué, ces deux histoires. La perte de contrôle de l'avion et la percée à Chambéry, je me souviens, ça l'avait un petit peu secoué.
C'était un fan d'aviation, vraiment.
Il n'avait pas trop le temps. Il aimait bien. Je raconterai, on a eu des tas d'histoires ensemble, des trucs, des fois. Tu veux que j'en raconte une autre, là?
Allez.
Alors, un jour, on part avec l'équipe de France de ski. Je crois que c'était à Sarajevo. L'équipe féminine de ski, voilà. Donc il y avait 14 filles dans l'avion. Alors je commence à tiquer parce qu'il n'y avait pas de place pour mettre les skis. Il fallait les mettre dans l'allée centrale, mais tu t'imagines le tas. Alors bon, les filles, c'est les filles qui avaient 20, 22, 23, 24 ans, quoi, sportives et tout. Bon, c'était un vol privé. Tapie commençait à gronder un peu. Bon, c'était pas légal. Enfin, c'était pas très, très légal ce que je faisais. Et bon, je les briefe bien, je dis, mais si jamais il y a un problème, voilà comment on va faire et tout. Bref, on part. Et à l'époque, il y avait encore les pays de l'Est. Hein. On arrive sur la côte. Alors, j'ai un Split. De mémoire, c'est ça, Split. Mauvais temps. Il y avait 250 pieds de plafond. Il voulait faire la percée. Il voulait faire la percée. Je dis, écoute, c'est un peu tangent. Elle me dit, oh, quand même. Bon, je dis, OK. Alors, on y va. On fait la percée. Arrivé à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi ? Il était uniquement en train de suivre le fly director, mais qui était le fly director n'avait pas capturé l'ILS. Mm-hmm. Le fly director était sur heading and pitch. Mm-hmm. Donc, effectivement, c'était pas très loin des valeurs moyennes données par l'ILS, mais à un moment donné, on s'est retrouvé sous l'ILS. Donc, j'ai dit à moi les commandes, j'ai repris les commandes, j'ai foutu plein pot, tout en parlant au contrôle, remise de gaz. Ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Je dis, attends. Et on émerge de la couche. Et là, je lui explique. Je lui dis, voilà ce qui s'est passé. Je dis, là, normalement, 50 secondes avant de toucher sur la piste, on touchait le sol dans des très mauvaises conditions. Mmh. On allait se planter. Mais comment ? Alors, je lui explique, bien sûr. Je dis, écoute, je vais refaire la percée. Je dis, ah, c'est pas si évident. Donc, je fais la percée. On perce. C'était tombé à 200 pieds. On se pose dans la neige. Et là, il y avait un sabre liner à droite qui avait quitté la piste et un Gulfstream qui était rentré dans le lock au bout de piste. Ah oui. Tu vois que c'est quand même pas évident. Hein. Oui. Bon, on va manger, on ne trouve pas de restaurant, c'était le pays de l'Est à l'époque, on mange dans une cantine, il était pressé de repartir, on repart, ils avaient déblayé la piste et il fait faire un rolling take-off. Le contrôle me passe la clairance et là, j'ai un doute, tu vois. J'étais quand même tout seul sur cet avion. J'ai un doute, j'attrape les manettes, là je réduis et je freine. Alors naturellement, la piste, un petit peu, des restes de neige, l'avion se tortille un peu. Le contrôleur, vous avez un problème ? Je dis oui, là, la clairance que vous me donnez est une clairance face à l'est et non décolle. Oh non, clairance face à l'ouest, on est en train de décoller face à l'est. Oh, désolé, tout ça. Et Tapi me dit, mais qu'est-ce que c'est que... Alors j'explique, je dis, ben là, les montagnes face à l'est, on allait se les payer, là, tu vois, parce qu'il y avait encore 200, 300 pieds de plafond. On rentrait dans la couche face aux montagnes. Mmh. Et tu vois, voilà le genre de vol, quoi.
Et ça devait pas être évident d'un point de vue relationnel de...
Ah, des fois,
de ouais. C'était ton patron, mais en même temps, si tu volais avec lui, il avait un fort caractère. Mais il avait pas le temps de s'intéresser.
Un jour, il m'a quand même, parce que... Je ne représentais pas l'image qu'il attendait des pilotes, si tu veux. Ouais. Pour lui, les pilotes, c'était encore l'image qu'on avait à peu près à ces époques-là, de type à forte personnalité, extraverti, un peu parisien sur les bords et tout. Et moi, bon, je n'étais pas tout à fait dans ce profil-là, quoi. Mmh. Et un jour, il me dit, tu vois, André, je ne sais pas comment tu te démerdes, mais j'irai avec toi au bout du monde. Mmh. Et ça m'avait un compliment qui m'avait beaucoup touché, parce qu'on a eu des tas d'histoires en vol et on s'en est bien tiré à chaque fois. Et bon, une autre fois, on arrive à Amsterdam, il avait une horreur des uniformes, que ce soit les flics, les douaniers et tout. Alors, il ne parlait pas un mot de langue étrangère. On arrive là, les douaniers nous demandent « passeport biteux ». Alors, il me dit « qu'est-ce qu'il veut l'autre con ?» Il demande le passeport. Alors, le douanier répète « passeport biteux ». Et puis, Tapi jette le passeport et le mec fait « dans le cul ». Et Tapi fait, mais quoi, c'est quoi ce bordel sous de moi, enfin, il commence à monter un pataquès, tu vois. il avait bien compris, mais histoire d'être dans le folklore, quoi, tu vois.
Ouais.
Puisqu'on est avec les histoires de Tapi, une fois on arrive à Pau, il est originaire, ses grands-parents étaient originaires ses parents, de Tarbes, des Pyrénées. Et il avait affaire là-bas, donc on arrive à Pau. Et. On garde l'avion au parking. Il me dit, André, j'ai loué une voiture, tu veux pas aller la chercher ? Je m'occupe des bagages, je les sors de l'avion. Je dis, mais la chercher pour aller où ? Il me dit, bah, tu l'amènes au pied de l'avion. Je dis, attends, Bernard, ça, faut aller sur le parking aviation, je peux pas amener une voiture. Tu fais chier, si t'y vas pas, j'y vais. Je dis, bon, écoute, je vais tenter le coup. Alors effectivement, j'avais vu que le portail était ouvert. Je vais chez Hertz, je prends la bagnole de location, je repasse par le portail et j'arrive au pied de l'avion. Mmh. À ce moment-là, t'as deux gendarmes qui arrivent, en se grattant la tête, en levant le képi, tu vois. Mmh. Et Tapi fait quelque chose qui vous dérange ? Alors les gendarmes disent, bah, vous avez amené votre voiture, là, normalement, vous n'avez pas le droit, donc vous avez droit à une amende. Et Tapi fait, c'est pas parce que vous êtes des poulets qu'il faut jouer au con, les mecs. Hein.
Ah oui, il pouvait se permettre.
Mais à l'époque, il n'était pas très connu encore.
Encore, ouais.
Et puis, il a sorti d'autres conneries dans ce goût-là. Les pauvres gendarmes sont partis un peu dépités. Bon, il n'y avait pas de trafic, il n'y avait rien, donc ça n'avait pas de conséquences. Mais tu vois le genre de choses, quoi, c'était...
Alors, on se rapproche de la fin de cet épisode. J'ai encore deux questions pour toi, si tu veux bien. La première, c'est... Bon, après, c'est mille et une aventures que tu as vécues et que tu viens de nous raconter. J'aimerais finir par une question un peu plus globale. Est-ce que tu penses avoir fait le tour de l'aviation, en tout cas, de ce qui aurait été susceptible de te plaire? Quel métier de pilote civil manquerait à ta liste, éventuellement, de choses à faire?
Bah écoute, j'ai essayé de compléter le catalogue, disons. Peut-être faire un peu plus de voltige, tu vois, participer à des championnats, des trucs comme ça. Ça plus jeune, hein, parce que là, les dernières fois où j'ai fait quelques figures, je me suis rendu compte que là, j'étais là quand même. Mais plus jeune, j'aurais bien aimé faire un peu plus de voltige ou de vol à voile, mm-hmm. d'une façon un peu plus poussée. Mm-hmm. Mais tout le reste, non, j'ai fait vraiment tout ce qui pouvait faire dans l'aviation. Hein, je veux te dire, je vois pas trop... dans l'aviation civile, j'entends.
Donc pas de regrets.
Non, non. Mais okay. Tu sais, c'est normal de faire pilote agricole quand t'as 25 ans, mais c'est pas normal de faire pilote agricole quand t'as 50 ans, par exemple. Donc, moi, dans ma démarche, c'était ça. Je m'étais dit, j'aurais toujours le temps de faire la ligne. Bon, je m'étais fixé comme limite vers 30-35 ans, avec les limites d'âge de l'époque et tout. J'ai à peu près une dizaine d'années pour essayer de combler un petit peu, me balader dans le monde. Bon, faut reconnaître que, pas loin d'ici, j'étais dans un collège religieux. On était enfermés. On voyait nos parents quelques fois dans l'année aux grandes vacances, pas le droit de parler à table, on était punis, donc j'avais un besoin de liberté invraisemblable. Je ne me voyais pas me renfermer dans une compagnie, en uniforme, je voulais vivre, quoi. Et je voulais surtout faire tout ce qui était possible de faire dans l'aviation. Donc le vol à voile, la petite aviation, le troisième niveau, les avions ambulances, j'en ai fait, l'aviation privée, du deuxième niveau, des convoyages, j'ai fait vraiment tout ça. Et ce qui était encore facilement faisable à l'époque, maintenant ça doit être un peu plus dur, d'une part parce que on a formé des pilotes dans les pays qui étaient un petit peu en retard, où il y avait besoin d'une aviation, mais il n'y avait pas les pilotes nationaux. Et j'ai participé à la formation de ces pilotes. J'étais, je crois, un des premiers à avoir lâché un pilote camerounais à l'époque. Qui se débrouillait pas trop mal, d'ailleurs. Et j'avais bien poussé en avant. Puis après, au Cameroun, il y a eu d'autres pilotes, là. Il y en avait un qui s'appelait Pout-Pout, je me souviens.
Ah oui, Pout-Pout.
Pout-Pout.
C'est un petit terrain au Sénégal.
Ouais.
Et donc, ouais, aujourd'hui, pour des jeunes, ce serait encore possible de faire des carrières aussi riches. Peut-être un peu plus compliqué, comme tu disais.
Peut-être un peu plus compliqué. Et il ne faut pas chercher forcément des salaires, quoi. C'est élevé. Moi, des fois, j'ai accepté des boulots vachement sympas avec juste de quoi vivre, quoi. Ce qui n'a pas empêché quelquefois aussi d'avoir des boulots. J'étais vachement bien payé quand j'ai fait la puits artificielle ou la recherche d'uranium. J'étais très bien payé à l'époque, tu vois. Mais il y a d'autres boulots où je savais que je faisais ça pendant 4-5 mois. À chaque fois, j'avais l'esprit freelance. Hein, c'est-à-dire que dès qu'un boulot se présentait, je le faisais dans ce que je cherchais. Et je ne cherchais pas forcément un salaire extraordinaire. J'ai dû te raconter qu'un jour au Malawi, j'avais trouvé un boulot sur un Cessna 410. Et quand le type m'a proposé le salaire, je lui ai demandé si c'était par semaine ou par mois. Et c'était par mois. Et je lui ai dit « If you pay peanuts, you get monkeys ».
Ah oui, ouais. Je me souviens de celle-là dans le premier épisode.
Et le gars, bah, j'avais pas accepté parce que là, avec ce qu'il me donnait, t'avais à peine de quoi vivre, quoi. Et une autre fois, par exemple, quand je faisais de l'agricole au Cameroun, bah, on n'était pas très bien payé, mais on était hébergé par le patron dans sa maison, parce que lui était en France, une très belle maison, pas loin de l'aéroport, et on avait sa voiture. Bah, le reste, c'est du bonus. Hein.
Et ma dernière question, c'est comment, après une vie professionnelle aussi riche, aussi active, aussi variée, t'as vécu le passage à la retraite? Et comment t'as fait pour rester un petit peu actif? Est-ce que t'avais envie d'arrêter?
Oui, ou... alors bon, ben, donc, pour raison médicale principalement, mais pas que, j'ai quitté Air France, j'avais 53 ou 54 ans. Donc, J'ai voulu m'occuper l'esprit, j'étais en plein divorce, j'avais perdu un enfant peu de temps auparavant. Je suis parti en fac, j'ai commencé une licence de philosophie à Rennes 2. Et puis là, j'ai l'ancien patron du SNOMAG, le syndicat des mécaniciens navigants, Gérard Charles, qui était une personnalité extraordinaire, un ancien commandant de bateau, qui me téléphone un jour, qui me dit « André, je suis en train de monter une boîte de formation aviation en Malaisie, tu viens me donner un coup de main ?» Alors bon, je raconterai ça en détail après. Donc j'ai accepté, donc j'ai fait ça. Puis ensuite, on a créé une deuxième école au nord de la Thaïlande, à Nakhon Phanom, au bord du Mékong. Après ça, eh bien, j'ai fait tout un circuit en Asie du Sud-Est. On m'a fait des propositions au Vietnam, à Chypre. Et quand j'ai vu comment était devenu Chypre, Chypre s'était remonté une école de pilotes de ligne. Quand j'ai vu comment était devenu Chypre avec des Anglais à la retraite de chez Vauxhall, tu vois, c'était pas terrible comme ambiance et tout. Je dis non, ça m'intéresse pas. Et puis bon, après ça, je me suis occupé, j'ai côtoyé des jeunes à qui j'ai donné pas mal d'élan à Plo Hermel, au vol à voile, j'ai remorqué. Il m'appelait Papy Bovington, tu vois.
Ah oui. Ah, c'est pas mal, Papy Bovington.
Et j'ai eu un tas d'amis qui continuent dans les jeunes, là, à m'appeler. Il y a Audric qui a passé son ATPL, qui est parti d'un niveau vraiment bas, que j'ai poussé à passer le bac, à passer un BTS, tout ça, qui veut faire l'aéronaval. Il y a Dimitri qui rentre à Ryanair, après une qualif 737. Il y a Antoine qui a fait Super-Héros. Toinette, que je prenais ici à Dinard, que j'emmenais tous les week-ends à Plo Hermel, plus un tas de jaunes que j'ai la prétention d'avoir bien guidé, quoi. Et puis vers 72, 73 ans, il y a 2 ou 3 ans, je me suis rendu compte qu'il y a des moments où il faut arrêter parce que je commençais à être angoissé pour me vacher en plein heure. Je supportais mal certaines accélérations. J'ai fait quelques petites conneries qui auraient pu être graves parce que je vois un peu moins bien et ainsi de suite, quoi. Donc j'ai pas eu de regrets, ça s'est fait progressivement. Puis ayant à peu près tout fait dans l'aviation. Puis l'aviation a beaucoup changé. L'aviation, il y a eu un grand changement dans les années 85. On est passé d'une activité, si tu veux, où il y avait encore des fortes personnalités, y compris chez les constructeurs comme Airbus. Il y avait encore des gars qui venaient de Nord Aviation, Sud Aviation, des gars qui avaient connu les aventures des prototypes des années 50. Dans les pilotes, il y avait des gars qui avaient fait la guerre ou d'Indochine ou d'Algérie, ou même 39-45. Dans les clubs, il y avait des gars qui avaient fait la guerre 14-18 dans les années 70. Mmh. Ces gars-là, ils avaient quoi, 80, 85 ans. Ou même beaucoup moins, 70, ils avaient 70 ans. S'ils avaient presque 20 ans, 18, tu vois, grosso modo. Et c'est devenu une activité complètement normale, régulière, comme une autre activité. Pratiquement plus de crash, une fiabilité, une régularité, un confort, tout ça, c'est arrivé. Hein. Quand tu volais sur des avions comme le Fokker, tu étais à 90 décibels, 100 décibels. Les passagers devenaient à moitié sourds là-dedans.
Heureusement que ce n'est plus le cas.
Il y avait des pannes souvent. Moi, je me souviens de pannes invraisemblables sur les avions, quoi. Puis des crashs, il y en avait aussi quand même pas mal, hein. Même Air France, hein, il y a eu quand même quelques crashs spectaculaires. Hein. Il y a eu deux crashs aux Antilles, il y a eu celui de Caracas, il y a eu pas mal. Tout ça dû à la mécanique, mais aussi à la formation des pilotes. Il y a eu beaucoup les crashs comme sur le Mont Blanc là, et autres, c'était des erreurs d'altimétrie, mais qui semblent complètement incompréhensibles maintenant. Et le fait d'être pilote était basé beaucoup plus sur la personnalité que sur les compétences. Des gars qui étaient aptes à survivre, qui réagissaient rapidement sans stress, sans émotivité particulière. Donc tout ça, ça a changé. Les profils ne sont plus du tout les mêmes, y compris dans l'armée et les pilotes militaires. Maintenant, quand tu pilotes un Rafale, c'est pas tellement le pilotage en lui-même ou l'exploitation de l'avion, c'est l'exploitation du système d'armes. Quand tu lis les mémoires des gars qui ont fait l'Afghanistan et autres, tu t'aperçois que c'est un métier qui est devenu très technique, extrêmement compliqué, et qu'il faut des sacrées qualités, quoi. Alors que dans le temps, on demandait à un gars d'avoir un instinct de survie, d'être en très bonne santé, de ne pas avoir peur, de bien contrôler son émotivité, d'être habile. des qualités qu'on ne demande plus maintenant, on demande autre chose. Donc c'est pour ça que la mentalité a bien changé. Et il y avait des gars qui étaient folkloriques, des gars qu'on aimait côtoyer, quoi, des fortes personnalités. J'ai des tas d'exemples, des types.
Aujourd'hui, tout est un peu plus lissé.
Ah oui, oui, complètement.
C'est devenu une activité normale, comme tu dis.
Banalisé.
Bon, il reste quand même plein de belles choses à faire dans l'aviation, de belles carrières à avoir.
Oui, tout à fait.
Un futur...
Mais il ne faut plus rechercher les mêmes choses que ce qui se cherchait dans les gens de ma génération et avant. On retrouve bien sûr des tas de points communs, mais c'est différent, quoi. Je vois dans les jeunes, là, maintenant, ils ont déjà pris le pli bien avant de rentrer dans les compagnies aériennes. Ils savent déjà à peu près ce qu'il faut faire, quel profil présenter et tout, tu vois. Il n'y avait pas de sélection de tests psychotechniques où ils n'étaient pas au point. Il y a encore 50 ans, c'était un peu n'importe quoi.
Bon, eh bien, on va terminer cette interview sur ces paroles. merci beaucoup, André, pour ton temps. C'était très sympa. Et puis, pour nous avoir raconté ton parcours incroyable.
écoute, on verra la suite après, quoi.
Ouais,
il y en a encore à dire, hein, quelques-uns.
J'en doute pas. Merci. Et ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un très bon moment en écoutant cet épisode de l'expérience Shiban. Si c'est le cas, je te propose de nous suivre sur ta plateforme de podcast préférée, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Tu peux également nous mettre 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit. Et surtout, et c'est très important pour nous, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi. Si tu apprécies notre travail, tu peux également nous soutenir financièrement. Ça nous permet de faire pas mal de choses. De couvrir nos frais, d'acquérir du matériel pour continuer à proposer du contenu toujours plus qualitatif, d'aller à la recherche d'invités toujours plus passionnants et de continuer à explorer de nouveaux formats. Pour ce faire, tu peux nous faire un don ponctuel ou régulier sur notre Tipeee. Le lien est en description de l'épisode et sur notre site internet xpshiban.com. Je tiens à remercier nos contributeurs et contributrices sur Tipeee et celles et ceux qui nous envoient de gentils messages et nous suggèrent des invités. Sans vous, ce podcast n'existerait pas, ou en tout cas, il n'existerait plus. Et pour terminer, un gros big up à toute l'équipe qui travaille avec moi derrière ce podcast. Maxence, Marek, Victor, Ilia, Thibaut, Léa, Paul et Tom. Allez, prends soin de toi et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion instructive, divertissante et inspirante.